Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 5, proposé par le Mouvement des entreprises de France et réalisé à partir d'une session de sensibilisation. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'académiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Bonjour à toutes et à tous, donc Alexis Casbarian, responsable du pôle numérique innovation au MEDEF. Peut-être en introduction, rappeler ce qu'est le MEDEF. Le MEDEF représente 190 000 entreprises adhérentes à ce jour. Les entreprises adhèrent non pas directement au MEDEF, mais par l'intermédiaire de fédérations professionnelles et de MEDEF territoriaux qui sont directement adhérentes au MEDEF. Donc aujourd'hui, nous avons 100 fédérations professionnelles adhérentes et 120 MEDEF territoriaux qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Les travaux numériques au MEDEF sont traités dans le cadre d'une commission, la commission numérique innovation, qui est coprésidée par Virginie Fauvel, CEO de Harvest, et de Jean-Luc Brossard, président du CCFA et vice-président Stellantis en charge de l'innovation. Et au sein de cette commission, nous avons le plaisir de traiter des sujets de régulation au sein d'un comité dédié, le comité régulation du numérique. Le sujet de l'intelligence artificielle au MEDEF n'est pas pris et traité depuis hier. Hein. On a commencé à traiter le sujet dès 2017 avec la participation à la mission Villani. Et bien évidemment, l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative ayant pris un essor considérable ces derniers mois, le sujet est venu encore plus sur le devant de la scène. Mais dès 2021, le MEDEF a adopté une position sur l'AI Act après avoir rencontré plusieurs parties prenantes, parmi lesquelles de nombreux députés européens. Cette position, qui a été actualisée régulièrement, a été présentée à la DGE, a été présentée au cabinet du ministre Barrot à l'époque et a permis d'échanger également avec la présidence espagnole. Aujourd'hui, nous allons parler de l'AI Act et de ses conséquences sur les entreprises avec Nathalie Bellet, que je remercie pour son intervention, avocate, CEO, cofondatrice de Naya. Donc vous allez nous proposer un éclairage, un décryptage du texte et puis plus largement un partage des bonnes pratiques pour savoir comment répondre rapidement, efficacement à la question de la conformité en matière d'intelligence artificielle. Je vous laisse la parole. Merci à toutes et à tous.
Bonjour, merci. Merci au MEDEF de m'avoir invité à intervenir. Je suis très heureuse d'être de ce côté-là du monde, j'allais dire du côté des entreprises. Très heureuse encore plus, sans doute, de vous parler de l'intelligence artificielle et de la conformité. C'est un sujet que certains appellent le monumental goal ou concerne others. En fait, le sujet spécifique de l'intelligence artificielle, c'est qu'évidemment, ça concerne votre activité en tant qu'entreprise, mais ça nous concerne tous. Et de ce point de vue-là, la préoccupation de développer un cadre de confiance est en même temps une préoccupation collective et individuelle. Donc, je vais vous faire une présentation d'abord avec un point de vue un peu général, puis ensuite on va forer ensemble les concepts clés du cadre de l'AI Act. Et enfin, j'exposerai les bonnes pratiques qu'à date nous recommandons pour démarrer le chantier de la mise en conformité. Alors, la première observation, c'est qu'on se trouve actuellement dans un contexte réglementaire général, global, à l'échelon du monde. C'est vrai que c'est l'Europe qui a pris l'initiative de déployer un cadre réglementaire sur l'intelligence artificielle en avril 2021, avec ce projet de texte qui est devenu aujourd'hui l'AI Act, et qui, par la volonté de la Commission européenne, d'établir sur le territoire européen un environnement d'excellence et de protection des droits fondamentaux en plaçant l'humain au centre de cette technologie particulière qui est l'intelligence artificielle. Et à la suite de ce projet de texte, alors même que la Commission européenne avait parié pouvoir publier la première loi mondiale, d'autres acteurs, mais vraiment en s'appuyant sur le contenu de ce texte, ont sorti des réglementations. Sans surprise, le plus rapidement, la Chine, avec une loi qui est opposable depuis l'été dernier, puis les États-Unis. Alors là, avec step by step, d'abord avec un cadre de l'administration Biden, puis plus récemment, à nouveau de l'administration Biden, mais cette fois-ci un cadre plus formel et opposable. Et puis ici ou là, saupoudrer dans tous les États des règles qui viennent toucher des sujets particuliers de l'intelligence artificielle. Puis la loi israélienne. Et enfin, depuis aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui devant le Parlement européen que le texte, dans sa version finale, a été reconnu comme final et va être publié au JO de l'Union européenne courant mois de mai. Donc depuis aujourd'hui, on a le texte final de l'AI Act dont je vais vous parler. Mais à la suite de ces textes qui sont aujourd'hui les quatre textes votés, vont arriver dans le monde entier, ils sont ainsi annoncés, des réglementations autour de l'IA. Donc les points communs de toutes ces réglementations, et c'est vraiment ce point-là qui est un point essentiel dans la compréhension du cadre et dans sa mise en œuvre, c'est que le fait que l'intelligence artificielle est considérée comme un produit. Ce faisant, les réglementations vont venir faire poids au stade de la R&D, au stade du déploiement, au stade de l'exploitation et aussi au stade du marketing, des revendications associées à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un point commun qu'on trouve à peu près dans toutes les réglementations et ça va devenir un ingrédient, un produit essentiel de toutes les entreprises, de toutes les organisations et pas simplement des entreprises, aussi des organisations publiques puisqu'on le sait, les États et les organisations non gouvernementales par exemple ont vocation à utiliser massivement de l'intelligence artificielle. Donc ça c'est le premier point commun. Deuxième point commun, ces réglementations vont toucher deux paquets réglementaires, les catégories d'opérateurs selon que vous êtes celui qui a développé, conçu, ou celui qui distribue, qui commercialise, ou encore celui qui déploie, ou encore enfin celui qui utilise, alors votre niveau d'obligation va varier. Ça, c'est, je dirais, le premier paquet. Et le deuxième paquet, c'est selon le type de produit d'IA, selon que vous êtes un modèle d'intelligence artificielle ou un système, je reviendrai tout à l'heure dans le détail, alors là encore, les obligations vont varier. Et cette dichotomie entre des modèles et des systèmes, elle est également retenue partout dans le monde. Les modèles, vous savez, cela correspond à ce qu'on entend parler plus spécifiquement, c'est-à-dire tout ce qui est IA générative. Et les systèmes, ça va être, je dirais, des logiciels qui vont être basés sur soit des modèles, soit des moteurs d'intelligence artificielle, des algorithmes, mais qui vont avoir un usage spécifique. Je reviendrai également là-dessus tout à l'heure. Troisième point commun, enfin, pour ce propos introductif, dans la majorité des réglementations, il y a des risques de sanctions. Donc, ce que je vais vous dire là ne va pas vous surprendre. C'est en Europe que le niveau de sanctions prévu par la réglementation est et sera le plus élevé, puisque ça peut aller jusqu'à 7% du chiffre d'affaires mondial de l'exercice précédant le fait générateur de responsabilité. Et à cela pourrait s'ajouter de l'indemnisation de préjudice, mais dans toutes les autres réglementations, il y a également des pénalités, on voit ça en Chine par exemple, mais pour les États-Unis et Israël, les sanctions viendraient plutôt de dommages et intérêts, de réparation ou d'actions en concurrence déloyale. Donc une fois que je vous ai fait cette introduction, je vous propose de se poser sur le calendrier de l'AI Act. Donc à partir de maintenant, on va plutôt se recentrer sur notre cadre européen et se poser plus concrètement sur ce calendrier. Alors pourquoi c'est important d'avoir en tête les dates ? Puisque l'AI Act emporte des timelines de mise en œuvre. Donc vous allez avoir progressivement dans le temps, entre mi-mai et jusqu'à 3 ans après mi-mai, des entrées en vigueur et de l'opposabilité de certaines dispositions. Donc on va démarrer ces timelines à partir de le 22 avril, le texte a été définitivement adopté. Il va être publié au JO mi-mai et à partir de là, vous avez 3 timelines. La première, elle est à 6 mois, donc c'est-à-dire fin de l'année 2024. Et elle va devoir conduire les organisations, une fois encore privées ou publiques, de sortir de toutes les plateformes les systèmes d'intelligence artificielle dits interdits. Donc j'y viendrai tout à l'heure un petit peu sur les IA interdits, mais il y a une liste dans l'AI Act de systèmes d'intelligence artificielle dits interdits parce qu'ils présentent ce que le texte appelle un risque inacceptable et ce qui a conduit le législateur européen à purement et simplement les interdire sur le territoire européen, qu'ils soient développés par des acteurs européens ou développés par des acteurs hors de l'Europe, mais ciblant des populations ou des entreprises européennes. Ensuite, à 12 mois, à compter de cette même date, donc mi-mai 2024, plus 12 mois, ce sont les modèles d'intelligence artificielle à usage général qui vont être nommés, et vous verrez cet acronyme, vous allez de plus en plus en entendre parler, les GPAI, qui correspondent à nos amis d'OpenAI, donc les Gemini, Mistral AI, donc les gros acteurs qui aujourd'hui proposent des modèles. Donc ces derniers, dans 12 mois, devront être en capacité de produire de la documentation technique qu'ils vont mettre à disposition des fournisseurs qui vont utiliser leurs modèles pour développer leurs propres outils, ainsi qu'aux autorités et avec des résumés destinés au grand public. Et ensuite, il y a un délai à 24 mois, qui est le délai principal, je dirais le délai général, pour tous les autres systèmes d'intelligence artificielle, donc à 2 ans, donc mi-mai 2026, pour arriver à la cible de conformité. Et enfin, pour certains systèmes d'intelligence artificielle très particuliers, parce que se cumulant avec d'autres réglementations nécessitant des certifications, exemple des ascenseurs, des dispositifs médicaux, matériels de transport de gaz. Donc vous voyez ici, je dirais, du matériel, de l'équipement ou du service qui en eux-mêmes faisaient l'objet d'une réglementation par ailleurs nécessitant des certifications. Dès lors que ces éléments cumuleraient des systèmes d'intelligence artificielle, alors le législateur a entendu donner un délai plus long pour permettre aux acteurs d'articuler les exigences pour arriver à la cible de conformité. Donc voilà pour les timelines. Donc vous comprenez immédiatement, et j'y reviendrai, que le chantier prioritaire, ça va être d'identifier les IA interdits pour pouvoir les dégager à la fin de l'année de vos plateformes. Alors, on ne peut pas se poser la question du niveau de vos obligations sans revenir à l'ingrédient principal qui est l'intelligence artificielle. Et le législateur a donné ici une définition sur laquelle je vais m'arrêter quelques instants. Cette définition, c'est celle qui a été retenue également par l'OCDE. La recommandation sur cette définition, c'est de procéder par une décomposition et par critères. Pourquoi ? Parce qu'au fond, l'intelligence artificielle existe et on n'a pas attendu ni 2023, ni 2022, ni 2021. On vous a dit tout à l'heure, dès 2017, notamment au MEDEF, on se préoccupait de ces questions. C'est parce que bien avant cela, les entreprises avaient déjà soit développé, soit utilisé des systèmes d'intelligence artificielle qui n'étaient pas réglementés. Et comme il y a ce Big Bang de réglementation, il va falloir à un moment donné faire son inventaire des produits qui, au sein d'une organisation, relèvent de ce périmètre. C'est pourquoi il y a cette définition. Donc cet inventaire doit se faire à partir de ces critères pour distinguer au fond l'intelligence artificielle d'un logiciel qui pourrait être expert ou algorithmique, mais qui n'irait pas jusqu'à cette définition. Et c'est ça l'enjeu, hein, c'est bien de distinguer ce qui peut être système expert algorithmique de ce qui est de l'intelligence artificielle, puisque tous les logiciels qui contiennent de l'intelligence ne vont pas forcément qualifier un système d'intelligence artificielle. Donc les critères que je vous recommande de retenir ici, c'est évidemment pas le premier, système automatisé, tous les logiciels sont dans ce cas-là. Le deuxième, ça commence à être très spécifique à l'intelligence artificielle, on parle de niveau d'autonomie, c'est-à-dire la capacité du logiciel à être indépendant par rapport à des humains pour produire un résultat ou un raisonnement. C'est un critère, vous voyez ici, qui est très proche de la notion d'intelligence artificielle, ce que ça comporte, une capacité à faire seul, sans l'humain. Deuxième critère également très important, la capacité d'adaptation. Et vous voyez ici, l'autonomie, l'adaptation, ce sont des caractéristiques typiques de l'intelligence, c'est-à-dire par rapport à une situation donnée, qui est une réaction ou une adaptation du logiciel sans recevoir une instruction humaine. Vous avez ici deux des principaux critères qui distinguent des logiciels experts de l'intelligence artificielle. Après, vous avez bien sûr la notion d'objectif explicite ou implicite. Il s'agit ici du « à quoi ça sert ». Et donc, le « à quoi ça sert », c'est un but général ou un but spécifique. Et à nouveau, on va rentrer dans les critères 5 et 6 qui sont très spécifiques à l'intelligence artificielle. Ce sont des données d'entrée qu'il reçoit. On parle d'entraînement, de machine learning, des notions que vous connaissez sans doute certains très très bien. Et donc ce sont des logiciels qui, pour avoir cette capacité d'autonomie et cette capacité d'adaptation, doivent avoir été entraînés. Et avec quoi ils sont entraînés ? Avec beaucoup de données d'entrée. Et enfin, sixième critère qui est également très important, les fameux résultats. Et les résultats d'un système d'intelligence artificielle sont toujours soit des prédictions, soit du contenu, soit des recommandations, soit des décisions. Et vous voyez ici qu'il y a à nouveau cette notion d'intelligence, puisqu'on ne va pas poser juste un résultat lambda, mais dans le résultat, il y a une capacité, il y a une puissance qui est donnée à l'humain qui active le logiciel. Et enfin, une influence possible avec des environnements physiques ou virtuels, mais ça, il n'y a rien de spécifique à l'intelligence artificielle. Donc, l'AI Act contient des grands principes sous-jacents à toutes les obligations que je vais juste exposer ici sans en rentrer dans le détail pour ensuite aller vers des considérations plus concrètes et pratiques qui vont vous intéresser. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a des grands principes que vous allez reconnaître parce qu'ils sont très proches de ce qu'on trouve déjà dans d'autres réglementations. Respect de la vie privée, c'est toute notre RGPD ou d'autres réglementations associées. Robustesse technique et sécurité, là on est très proche de toutes les exigences qui existent déjà en sécurité informatique et en cybersécurité. Bien-être social et environnemental, là aussi on a pas mal de réglementations déjà qui sont sorties sur des sujets qui touchent le numérique comme d'autres sujets. Et à côté de ces, je dirais, de ces trois sujets un peu généraux et qu'on retrouve dans l'AI Act, puisque le législateur a entendu en faire une application spécifique par rapport à l'intelligence artificielle, on va retrouver des notions très spécifiques à l'intelligence artificielle qu'on retrouve peu dans d'autres réglementations. Donc la notion de contrôle humain, qui signifie qu'à tous les stades du système, au stade de la R&D, au stade du déploiement, au stade de l'exploitation, il faut qu'il y ait un contrôle humain, c'est-à-dire la démonstration qu'un humain peut arrêter le système et la démonstration que le système a été conçu avec une supervision humaine. C'est ça la notion de contrôle humain. Vous allez entendre beaucoup parler de ce qu'on appelle le bouton d'arrêt, c'est-à-dire le contrôle et la supervision permanente qui doit être fait sur un système d'intelligence artificielle. Et ça, c'est en lien avec ce que je vous disais juste avant, l'autonomie, la capacité d'adaptation, pour qu'à un moment donné, on puisse dire stop. Ce n'est pas la machine qui décide, c'est l'humain. Je vous donne ce phrasé un peu grossier, mais c'est de ça dont il s'agit. La notion de contrôle humain, c'est le législateur a entendu fixer cette obligation pour éviter que la machine s'emballe. Alors, d'autres notions très spécifiques à l'IA, la notion de confiance. On parle d'ailleurs beaucoup d'IA de confiance. Vous allez entendre parler beaucoup d'IA responsable ou d'IA alignée. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, l'IA de confiance, c'est l'IA conforme. Le chapeau de l'AI Act, c'est la confiance. C'est de se dire, au fond, on touche ici à un sujet qui est tellement mutant, perturbant, révolutionnant de l'activité humaine, en ce compris l'activité économique, l'activité sociale. Tous les secteurs sont concernés, le transport, la santé, les finances, les ressources humaines, la création. Tous les secteurs sont concernés. Donc, pour que les acteurs soit aient recours à ces systèmes ou soit en bénéficient, il fallait définir un cadre de confiance. Et ce cadre de confiance, ce sont les règles que je vous expose aujourd'hui. Donc, l'IA de confiance n'est rien d'autre qu'une IA conforme, c'est-à-dire respectant les principes de l'AI Act. Et puis enfin, cette notion de transparence et explicabilité, là aussi, vous avez dû beaucoup en entendre parler, c'est la capacité d'expliquer comment on arrive à ce résultat. Et là, le législateur a voulu, là aussi, comme on est face à ce concept d'intelligence artificielle, donc une machine, contrairement à une intelligence humaine où, fort heureusement, on n'est pas capable de tout expliquer. Il y a des mystères, il y a des émotions, il y a des raisonnements qui ne sont pas forcément explicables. Là, pour un logiciel, on a entendu fixer l'obligation de pouvoir toujours être en situation d'expliquer quel type de données d'entraînement, quel type de données de test, quel type de données de vérification pour pouvoir rendre robustes et fiables les résultats. Ça, c'était les grands principes. Alors, quand on rentre sur les produits, comme je vous l'ai dit, c'est une approche produit, réglementation produit, il y a une segmentation dite par les risques. Donc, certains IA ont été jugés à risque inacceptable, ils ont donc été interdits. D'autres à risque élevé, ils ont donc été très réglementés. D'autres à risque spécifique, ils ont donc reçu des dispositions spécifiques, un peu spéciales dont je parlerai. Et puis enfin, les autres qui ne présentent pas de risque et qui, là, sont à peu près laissés tranquilles. Et ça, ce sont pour les systèmes d'intelligence artificielle. Et puis, il y a la création de cette catégorie particulière de modèles qui sont les fameux LLM et donc les grands modèles des gros éditeurs et qui vont ici servir de socle, en quelque sorte, pour le développement de systèmes d'intelligence artificielle avec des buts spécifiques. Ce que vous devez retenir ici, c'est que pour les risques inacceptables, je vais m'arrêter juste sur une des catégories des systèmes d'intelligence artificielle interdits. Il y en a 8, mais celle-là, elle est assez couramment déployée aujourd'hui, donc elle mérite votre attention. Ce sont les systèmes de reconnaissance émotionnelle sur les lieux de travail et d'éducation qui seraient déployés à des fins autres que santé et sécurité. Donc ça ne sera plus possible de déployer ces systèmes. Je vais vous donner un exemple concret. Vous avez aujourd'hui beaucoup de centres d'appel, des focus group marketing ou des lieux de production, des chaînes de fabrication, avec évidemment des humains, et c'est heureux, qui sont placés sous la surveillance de systèmes d'intelligence artificielle pour mesurer leur état émotionnel. Ça peut aller de l'état de fatigue à l'état de tension, et ainsi pour objectiver une amélioration de la qualité ou de la sécurité des travailleurs. Donc, ces systèmes ne seront permis que si et seulement si sont mis en œuvre justement à des fins de sécurité ou de santé. Pour la santé, on pense à des systèmes de surveillance en établissement hospitalier, mais pas seulement, à des dispositifs médicaux aussi. Voilà. Pour les autres, aujourd'hui, évaluer des salariés en centre d'appel, évaluer leur niveau émotionnel pour améliorer la qualité du service, ça va devenir interdit. Ce qui est interdit, c'est que ça soit le système qui fasse cette évaluation et qui fasse un scoring des salariés. Il n'est pas interdit d'évaluer des salariés en centre d'appel, y compris pour la qualité de service. Ce qui est interdit, une fois encore, c'est le système d'intelligence artificielle. Le législateur ici a souhaité que ça ne soit pas une machine virtuelle qui pose une qualification sur un humain en fonction de son état émotionnel dans un environnement de travail ou d'éducation qui ont été considérés comme des environnements sensibles où précisément les émotions devaient être managées par des managers ou des formateurs et pas par des machines. Pour les hauts risques, vous avez deux catégories, deux grandes catégories. Hein. Vous avez la catégorie des systèmes qui, comme je vous le disais tout à l'heure, cumulent une autre réglementation que l'IA. Et il y a une liste nommée, hein, liste fermée dans l'annexe 1 de l'AI Act. Je reprends des exemples, des jouets, des équipements de protection, des machines qui font du transport de gaz. Donc là, ici, on a estimé que c'était des matériaux tellement déjà spécifiques que s'ils sont dotés d'IA en plus, il fallait les considérer comme à risque. D'autres de l'annexe 3 qui sont des systèmes qui vont avoir un impact sur les droits fondamentaux avec des domaines qui sont listés et notamment des domaines emploi en particulier, tout ce qui est prestations sociales, assurance vie, crédit, assurance maladie, tous les sujets de solvabilité. Donc le domaine bancaire est particulièrement concerné. Et donc là, il y a une grosse réglementation pour cela. Ceux qui sont à risque spécifique, c'est ceux qui sont en interaction humaine, les deepfakes, les systèmes qui crachent du contenu. Et donc là, ce sera simplement une obligation de transparence. Concrètement, il faudra prévenir les personnes qu'ils sont face à ce type de système. Et pour les autres, il n'y a quasiment pas d'obligation. Donc vous avez ici ce que je viens de vous indiquer, les deux grandes catégories de systèmes d'intelligence artificielle à haut risque. Donc je ne vais pas plus commenter que ce que je viens de faire. Vous aurez le slide pour pouvoir avoir les références et les bons critères pour vous y référer le cas échéant. Ce que j'observe ici, et ce qu'on va attendre, c'est les lignes directrices de la Commission européenne et des autorités de contrôle qui seront nommées, qui viendront ici en principe vous aider avec des exemples concrets pour pouvoir appréhender la portée de ces notions. Alors les modèles d'IA à usage général, ce sont, comme je vous le disais, nos amis hein, d'OpenAI, Google avec Bart, enfin Gemini, enfin tous ces gros acteurs qui produisent des modèles. Ils sont donc encadrés eux aussi. Donc il y a une définition du modèle, c'est grand nombre de données, généralité significative, et qui peut être intégrée dans une grande variété de systèmes. Donc on voit immédiatement, alors ça généralement, personne n'a de la difficulté à appréhender ce que ça désigne. Et ceux-là, ils sont scorés en fonction d'un risque qui est qualifié cette fois-ci de systémique ou non systémique et qui pose le critère étant une puissance de calcul. Et donc, à un certain niveau, ils vont avoir plus de contrôle que d'autres. C'est ce qu'il faut retenir ici. Alors après, une fois qu'on a parlé des produits, on parle des acteurs, c'est ce que je vous disais en introduction. Donc, vous pouvez être fournisseur, vous avez développé, conçu et vous mettez en marché, c'est-à-dire vous allez chercher les autorisations. Vous pouvez juste commercialiser et vous êtes un distributeur. Vous pouvez être un fournisseur aval, c'est-à-dire vous allez chercher un système qui existe déjà ou un modèle et vous allez le customiser. Donc, vous allez rajouter une couche de développement à quelque chose qui existe déjà. Et si vous le commercialisez, vous êtes aussi un distributeur. Vous pouvez être un importateur, vous allez chercher en dehors de l'Union européenne des systèmes, un mandataire. Là, vous aurez été désigné par un acteur hors de l'Union pour venir commercialiser ou fournir un système. Et vous allez être potentiellement un déployeur, et ça, il va y avoir beaucoup de déployeurs, c'est-à-dire des organisations qui vont décider de mettre en œuvre et de déployer sous leur autorité un système. Ce que vous devez retenir, c'est que ce questionnement de qui vous êtes doit être fait pour chaque système, puisque dans les entreprises, selon le cas, vous pourrez être que déployeur ou distributeur. Donc, par exemple, vous avez recours à un système de scan de CV, vous êtes déployeur, vous faites ça pour votre entreprise. Mais dans le même temps, vous êtes un groupe bancaire, vous avez conçu un système de scoring de risque de crédit et vous le déployez auprès de vos filiales, vous êtes un déployeur et sans doute un distributeur si vous vendez ou en tout cas s'il y a une convention de service où on monétise la mise à disposition. Donc vous devez vous poser cette question de qui vous êtes à chaque système. Et pour chaque système, vous pourriez avoir un cumul. On peut être fournisseur, on a fabriqué, et distributeur parce qu'on vend aussi. Mais on peut être aussi que fournisseur puisqu'on ne fournit qu'à des distributeurs qui vendent, et ainsi de suite. Donc vous devez vous poser cette question pour chaque système. Alors, une fois qu'on a vu quel produit, quel acteur, nous, chez Naya, on a décortiqué depuis un an et demi que ce texte existe et discuté toutes les obligations, tous les acteurs. On a passé ça à un tatami opérationnel. Et ici, vous avez la formule de calcul de vos obligations. Vous devez regarder qui vous êtes, quel type de produit vous êtes, est-ce qu'il y a des spécificités à ce produit en lien avec celles que je vous ai présentées, et vous allez trouver le résultat des exigences auxquelles vous devez vous conformer. Et ces exigences, elles sont de deux paquets, des exigences liées au système lui-même et des exigences liées aux opérateurs. Donc, vous avez ici la liste des exigences liées au système d'IA à haut risque. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que, autrement, je devrais vous retenir toute la soirée. Ce que vous devez avoir en tête, c'est que ce sont des obligations qui sont soit logiques au niveau des systèmes eux-mêmes, soit organisationnels, soit juridique, soit réglementaire. Donc, il y a un système de gestion des risques qui doit être déployé, un système d'assurance qualité, des obligations de transparence, le fameux contrôle humain dont je vous ai parlé, un système de gouvernance des données, un établissement de documentation technique versionnée, régulièrement mis à jour, des registres et journaux qui doivent être tenus à jour, de qui utilise, pour quelle raison le système, tout un process de validation de l'exactitude, de la robustesse et de la cybersécurité des systèmes. Donc, vous voyez ici des obligations complexes de diverses natures. Vous avez aussi des obligations, comme je vous le disais, au niveau de l'opérateur lui-même. Vous aurez ici sur ce slide la liste de ces obligations. Je vais pareil rentrer dans le détail. Mais ce qu'on voit ici, c'est que là encore, au stade de la personne, il y a un certain nombre d'obligations qu'il va falloir mettre en œuvre. Évaluer régulièrement la conformité, vérifier lorsqu'on est distributeur que le fournisseur lui-même a assuré la conformité et nous remet une documentation technique complète, gérer des signalements d'incidents graves. Vous voyez, ce sont des obligations qui sont très proches de ce qu'on ferait en bonne pratique informatique et qui sont très spécifiques à l'IA, puisque l'AI Act va ici poser des critères dans ses annexes auxquels vous devrez vous référer pour mettre en place vos systèmes. Vous avez aussi des exigences liées au SIA à risque spécifique, donc qui vont être principalement des exigences de transparence et d'information. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Vous faites l'objet d'un SIA avec interaction humaine, donc vous êtes un consommateur, vous vous dirigez vers une borne électronique, vous posez une question, et là, c'est un système qui vous répond. Alors, un avertissement devra vous dire, vous êtes en train d'interagir avec un système d'intelligence artificielle. Autre exemple, il y a un deepfake. On a tous vu les deepfakes il y a quelques mois à la sortie de ces technologies. Eh bien, à l'entrée, à l'opposabilité de l'AI Act, il faudra que tous ces deepfakes soient mentionnés comme étant des deepfakes dans un standard visible. On devra vous dire, cette image a été produite, est un deepfake, a été produite par un système d'intelligence artificielle. Voilà, c'est essentiellement une obligation de transparence pour avertir, responsabiliser et mettre de la distance par rapport à un résultat qui est produit. Vous avez aussi des exigences qui sont applicables au modèle d'IA à usage général. Je ne vais pas ici trop détailler, puisque, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, ce sont des obligations qui s'appliquent surtout aux gros éditeurs de ces modèles. Ce que vous devez retenir en tant qu'entreprise, c'est que vous aurez à demander et ils auront à vous remettre une documentation technique complète pour permettre à vos data scientists, à vos développeurs, à leur tour, de pouvoir développer sur des bases, explicables et pour pouvoir fournir cette documentation en cas de contrôle. Là encore, comme ça a été mentionné en introduction, je ne peux pas ne pas rentrer un tout petit peu dans le détail des sanctions. Ce que vous devez retenir, c'est que c'est un système de sanctions quasi juridictionnelles. Donc, l'autorité de contrôle qui n'est pas nommée en France et dont on ne sait pas aujourd'hui encore si elle sera la CNIL ou une autorité spécialement créée aura donc ce pouvoir d'inspection, d'audit, de contrôle et de sanctions. Et qui lui permettra, selon les règles violées, selon qu'il s'agit de règles importantes ou moins importantes, effectivement, un biais discriminant, c'est plus grave qu'un défaut de transparence, par exemple, eh bien, le niveau de sanction sera retenu plus élevé ou moins élevé. Et par ailleurs, il y aura tout un process comme un tribunal, comme devant un tribunal, pour évaluer si vous êtes en état de récidive, s'il y avait de la négligence ou au contraire une action délibérée, s'il y a un manquement à une mesure de sécurité élémentaire. Voilà, ce qui se fait aujourd'hui en application du RGPD. Retenez que la modalité d'application des sanctions et le traitement des sanctions se fera exactement comme ça se fait aujourd'hui pour le RGPD. Alors, une fois que je vous ai présenté, pardon, ce cadre, évidemment, vous êtes tous des entreprises, donc je sais que vous avez sûrement déjà la question en tête, mais comment on s'y prend pour déployer le cadre de conformité? Ici, j'ai trois recommandations opérationnelles pour vous. La première, c'est qu'il faut traiter l'urgence avant fin 2024, et fin 2024 va arriver à grands pas. On a l'été au milieu de cette deadline, et il s'agit d'aller dépister les systèmes interdits. Et comment le faire? Vous ne pouvez pas ne pas cartographier pour le faire, les repérer à la grille réglementaire des critères de qualification pour pouvoir les supprimer ou les mettre en conformité. Donc les supprimer, ben, c'est les désactiver, hein, le fameux bouton d'arrêt, et cesser les utilisations. Et les mettre en conformité, c'est par exemple s'assurer qu'un système de reconnaissance émotionnelle est bien déployé à des fins de sécurité. Aligner la documentation, aligner les équipes sur ce but. Voilà un exemple de mise en conformité. Donc ça, il faut vous en occuper très vite pour pouvoir éviter un risque de sanction à compter de janvier 2025. Et puis ensuite, on va passer plus sur un mode trajectoire pour atteindre la cible. Et ce mode trajectoire pour atteindre la cible commence, et c'est la deuxième étape, par la mise en place d'un modèle de gouvernance de l'IA. Vous avez déjà entendu parler de la gouvernance des data, sans doute la gouvernance de la privacy, et ici, c'est un peu la même chose, sauf que ça concerne l'IA. Et ça concerne l'IA, du coup, c'est un peu plus complexe que les sujets que je viens d'évoquer, puisqu'il s'agissait de sujets autour d'opérations, là, on est autour de produits. Et donc, ça veut dire de A à Z, sur tout le cycle de vie du produit. Donc, c'est pourquoi il est absolument nécessaire de mettre en place en interne, selon que vous avez beaucoup, peu, moyennement de l'IA, pardon, et en fonction des types d'IA, un modèle de gouvernance. Donc, je dirais les grandes recommandations sur le modèle de gouvernance, c'est d'avoir une équipe qui peut être très compacte, hein, on n'est pas obligé d'avoir un grand nombre de personnes, mais en tout cas, une équipe très experte du sujet. Vous ne pouvez pas vous passer d'une équipe cœur, qu'on va appeler souvent cœur de gouvernance, et qui va être experte du sujet. Ensuite, il vous faut, alors, soit directement avec les équipes métiers, soit intermédiés par des opérationnels dont ce serait l'activité, selon la taille de votre entreprise, ce qu'on appelle ici une task force opérationnelle, c'est-à-dire l'équipe qui va être capable de transformer l'obligation en opération. Et donc, il va être capable de propager la confiance en vérifiant, par exemple, que telle documentation est mise en place, que telle mention est mise en place, que le mode de développement des algorithmes répond à tous les critères de conformité. Donc, vous voyez, ce sont des mesures très technologiques, très organisationnelles. Donc, il faut des compétences opérationnelles pour le faire. Cette gouvernance, elle comprend également la formation des équipes utilisatrices. Alors, non seulement c'est nécessaire, mais c'est obligatoire parce que dans l'IA Act, vous avez une obligation dite AI literacy, et donc qui veut dire alphabétisation ou maîtrise, hein, c'est ainsi traduit de deux façons. Et donc, c'est la mise à niveau des équipes dans leur cœur de métier, les réglementaires au plan réglementaire, les tech, les développeurs au plan tech, les décideurs au plan décideur, c'est-à-dire tout le monde, toutes les personnes concernées par l'IA doivent être formées dans leur domaine de compétences pour comprendre les enjeux et les impacts. Donc, effectivement, il faut, dans le modèle de gouvernance, définir un stream de formation. Et enfin, et c'est la recommandation chez Naya, parce qu'il s'avère qu'on est éditeur d'une solution et que c'est ainsi que cela a été conçu, mais que ce soit la nôtre ou un tableau Excel, si vous n'avez pas envie d'avoir un système, je dirais, cartographiant et agissant de A à Z, il faut ainsi un outil de pilotage centralisé. Notre conviction, c'est que comme dans les entreprises, il y a des CRM pour gérer la relation client, des ERP pour suivre la production et les finances, des SIRH pour suivre les RH, il faudra un AIMS dans toutes les entreprises très vite ou en tout cas demain, parce que l'IA est un ingrédient clé de la productivité, de l'innovation et ruisselle dans tous les sujets de l'entreprise. Donc, comme il y a ce sujet de conformité et qu'il y a ces enjeux de productivité, une fois encore, comme il y a des systèmes qui gouvernent de manière centralisée les ingrédients clés, il faut un système qui gouverne de manière centralisée l'IA dans l'entreprise pour piloter la conformité et gérer les risques. Et dans les risques, il y a aussi les sujets de responsabilité. Je vous ai parlé essentiellement de l'AI Act aujourd'hui. Il y a deux directives européennes en cours de gestation pour adapter le cadre de responsabilité et qui va déployer une responsabilité pratiquement sans preuve avec un système de présomption de faute, puisque la technologie étant complexe, le législateur souhaite faciliter la mise en cause de la responsabilité des fournisseurs, à charge pour eux de se défendre. Donc, nous le savons, il va y avoir des passages à l'acte judiciaire avec une monétisation des indemnisations. Donc, la question de la responsabilité, je dirais, du pilotage de votre responsabilité passe par le pilotage de la conformité. Parce que c'est en s'expliquant sur les balises réglementaires et sur toutes les précautions et les mesures que vous aurez prises de toute nature, organisationnelles, réglementaires, juridiques, fonctionnelles, technologiques, que vous serez capable de vous défendre au plan de la responsabilité. Donc voilà pour le deuxième niveau. Et enfin, et je dirais que le troisième niveau, ça va devenir à un moment donné la routine dans l'entreprise. Ça va devenir, et ça doit devenir naturel, c'est ce qu'on appelle vraiment l'usage compliant by design, c'est-à-dire faire de l'IA de confiance tous les jours, et c'est avec des équipes de développement qui sont capables de développer, qui intègrent la conformité, qui sont capables d'appréhender les niveaux de risque, de faire ce qu'on appelle chez Naya de la compliance par la valeur, c'est-à-dire mettre les efforts là où les systèmes le méritent, faire de l'IA aussi frugale, c'est-à-dire être capable de dire c'est une belle idée, mais en fait, au fond, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça justifie tel ou tel risque pris dans l'entreprise? Telle ou telle consommation d'énergie? On sait déjà que certains modèles sont très, très, très consommateurs d'énergie. C'est à ce moment-là qu'il faudra arbitrer. Donc, au fond, cette IA de confiance va devenir... comme vous faites des actions, je dirais, naturelles sur vos produits et vos activités, sur l'IA, ça sera quasiment plus un sujet d'innovation, ça sera une pratique courante, puisque des standards seront mis en place à tous les échelons d'entreprise, ceux qui développent, ceux qui utilisent, ceux qui marketent, et ceux qui déploient. Donc voilà, je dirais, la troisième étape. Mais ce qui est devant vous pour les mois et sans doute encore pour peut-être les 2 ans qui sont devant vous, c'est ce qui est, je dirais, la reco numéro 2 et la reco numéro 1 pour les 6 prochains mois, mais la reco numéro 2 pour les mois qui suivent, avant d'arriver à une capacité routine d'intégrer l'IA de confiance. Alors, ce qu'on sait, j'ai déjà anticipé un peu ce propos, c'est qu'on est face à un développement exponentiel. Jamais une technologie n'a été aussi désirable, a été aussi rapide en déploiement. C'est une préoccupation COMEX. Ça a été tout de suite un sujet stratégique et critique pour les entreprises. Donc, avec un déploiement, ça explique le déploiement rapide. Ça présente des défis majeurs. Je ne vous ai parlé que de la conformité aujourd'hui, mais au fond, ce qui compte, ce n'est pas de faire la conformité pour la conformité. La conformité, elle est là pour vous permettre de relever ces défis que sont la sécurité, la qualité, et c'est ça la compliance par la valeur. C'est se dire, quand je fais de la documentation technique, ce n'est pas pour avoir la bonne réponse quand l'autorité de contrôle se présente, mais c'est pour démontrer et surtout effectivement mettre en œuvre des algorithmes non discriminants. Donc, c'est ça la compliance par la valeur. C'est la capacité à avoir posé des risques, les avoir identifiés et les pilotés. Concrètement et très globalement, on identifie 3 gros risques aujourd'hui, des risques opérationnels, l'IA qui ne fonctionne pas et qui produit des mauvaises décisions qui sont ensuite implémentées avec un effet papillon. Des risques financiers, alors ça a bien sûr les sanctions, mais là encore, des IA biaisées, avec des mauvaises décisions économiques qui font perdre de l'argent ou en tout cas moins en gagner aux entreprises, des risques réputationnels, d'image. Et ce n'est pas de la petite réputation, faire de l'IA non de confiance, ça peut vraiment changer le cours des choses dans l'évolution d'une entreprise. Et je prends souvent l'exemple du médicament, puisque la réglementation de l'IA est construite conceptuellement exactement comme est construite la réglementation d'un produit de santé, avec des balises réglementaires à tous les stades du R&D, production, mise en marché, marketing. Inutile de vous dire, puisque vous le savez tous, qu'un sujet sur un produit de santé, un danger sur un produit de santé, un risque réalisé sur un produit de santé, et c'est très compliqué ensuite pour se remettre d'un tel problème. Donc c'est pareil en matière d'IA, le risque réputationnel va être très important. Notre recommandation, c'est vraiment d'avoir cette approche par la valeur et de supporter les métiers et d'intégrer le plus nativement possible dans vos systèmes ce cadre de conformité. Donc nous, on est éditeur d'une solution, je vous en parlerai quelques minutes, mais c'est surtout pour vous donner un exemple de réponse opérationnelle à l'approche de gestion des risques qui permet d'avoir ce pilotage global avec deux premières fonctions qui sont les fonctions repository et assess qui permettent d'inventorier et de qualifier les systèmes dans une organisation donnée. Et donc, d'avoir au périmètre de chaque système ou chaque modèle une qualification, l'identification d'une qualification d'opérateur et de système. Et puis, ensuite, pour pouvoir produire derrière ce qu'on appelle chez nous le Nail Accord, un plan d'action. Et ce plan d'action reposant sur un renversement des obligations en action avec une feuille de route, en fait, de la trajectoire de conformité et avec un workflow pour arriver à la cible. Et également un module qui permet de suivre la vie en fait des systèmes d'intelligence artificielle qui est une technologie quasi vivante, très très évolutive et qui doit être suivie tout au long de son cycle de vie pour pouvoir réingénérer et neutraliser un risque et faire évoluer la technologie pour maintenir la confiance en fait tout au long de son déploiement.
Lancer une première question concernant la norme ISO 42001, Nathalie. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette norme qui concerne les systèmes de management de l'IA?
Alors, je peux vraiment très volontiers vous en parler, parce que précisément, on a développé notre solution comme une réponse possible et comme un support possible à cette norme. Donc, c'est une norme qui est construite qui est très proche de la norme 27001 et qui permet aux entreprises, je dirais, de certifier le fait que le déploiement de l'IA, que ce soit au stade de la conception ou de l'utilisation au sein d'une organisation donnée, se fait de manière avec confiance. Et donc, au fond, alors c'est une norme qui a tenu compte hein, de l'AI Act, même si ce n'est pas une norme qui couvre tout l'AI Act, mais elle a été élaborée dans un timing tout à fait cohérent avec l'AI Act, mais de manière délibérée et assumée, pour pouvoir, au moment de la sortie de cette réglementation, donner une clé aux entreprises pour accéder plus rapidement à ce pilotage de la confiance, et qui va, comme la norme 27001, prôner la mise en place de politiques, de process, et qui va permettre aux entreprises d'être guidées par la norme dans le déploiement et la supervision de la confiance en IA. Donc, les organismes de certification en France ont démarré hein, les premiers travaux. Nous comprenons, et notamment on a eu un échange avec la FNOR, que c'est un bon succès aujourd'hui. Les entreprises ont commencé à se manifester pour aller chercher une certification. Et j'en profite pour vous dire que chez Naya, on est en cours de certification parce que notre plateforme contient également des LLM hein, pour aider à l'usage de la solution. Et c'était aussi pour que nos clients aient confiance dans la solution. Voilà, c'est une norme qui est très intéressante et qui est très claire, en fait, très, très éloquente et pragmatique pour couvrir les obligations que je viens de vous présenter.
Deux questions sur quid des exceptions pour la recherche académique et notamment en santé.
Alors, bonne question. En effet, l'AI Act contient deux exceptions sur le sujet de la recherche. Déjà, tous les systèmes d'intelligence artificielle qui sont développés à des fins de recherche, donc ne sont pas soumis à ces obligations. Et l'autre chose, c'est qu'au stade de la phase de R&D d'un système qui ne serait pas développé à des fins de recherche, mais à des fins autres que la recherche, mais pendant la phase de R&D, il y a ce qu'on appelle un répit, c'est-à-dire que les entreprises ne seront pas soumises au contrôle. En revanche, attention, une fois que le système sera mis en marché, les exigences sont telles que l'autorité de contrôle peut remonter sur la phase de R&D, puisque l'explicabilité, elle va être documentée à ce stade-là. Donc attention à ne pas se dire je suis en phase de R&D, donc parfait, je n'ai rien à faire. Le je n'ai rien à faire, outre le fait que ce n'est pas forcément une bonne pratique pour faire de l'IA de qualité, mais il est acceptable que si et seulement si c'est de l'IA qu'à des fins de recherche qui ne sortira jamais d'une paillasse électronique. Si en revanche vous êtes en phase de R&D, la recommandation c'est d'intégrer by design dès le stade de la conception les exigences dont on vient de se parler pour être prêt au moment de la mise en marché, même si c'est vrai que vous serez tranquille. Le temps de la phase de R&D, pas de contrôle sur cette étape-là. Et pour répondre à la question de la santé en particulier, ce qui est spécifique à la santé dans l'AI Act, c'est deux choses. Donc, les systèmes d'intelligence artificielle qui cumulent la qualification de dispositifs médicaux, logiciels ou autres, sont des systèmes à haut risque. Donc, il y aura 36 mois pour se conformer. Donc, il y a eu un délai plus long. Et deuxième annexe qui qualifie des systèmes d'intelligence artificielle à haut risque, quand bien même le système ne serait pas un dispositif médical, s'il y a un impact potentiel sur la santé et les droits fondamentaux, notamment en lien à l'accès aux soins, par exemple, alors ça peut être un système d'IA à haut risque.
Un éditeur de logiciels qui utilise un modèle LLM tiers pour l'intégrer dans sa propre solution logicielle commercialisée ensuite sur le marché, sera-t-il considéré comme un fournisseur au sens de l'IA Act?
Alors, bonne question. Ici, dans ce cas de figure, il y a deux fournisseurs. Un fournisseur amont, celui qui fournit le modèle, et un fournisseur aval, qui est ainsi dénommé dans l'IA Act, celui qui va intégrer le modèle dans son propre système et qui va rajouter une couche de custom de développement et un usage vraisemblablement spécifique à son activité. Et si en plus il le commercialise, ce fournisseur aval sera distributeur. Si en revanche il ne fait que le déployer au périmètre de son organisation, il sera fournisseur aval et déployeur. Et donc ce fournisseur aval et déployeur pourra s'appuyer sur la documentation technique du fournisseur amont et devra, pour ceux qui le concernent, produire sa propre documentation technique liée à la couche de custom ajoutée.
Comment prendre en compte l'IA Act dans les projets agiles où toutes les réponses aux questions de conformité n'ont pas encore leur réponse dès les premières itérations? C'est ça. Et est-ce que la plateforme présentée rapidement prend en compte ce type de projet, itération par itération?
Alors oui, la méthode agile, c'est une méthode de développement qui n'est pas incompatible avec l'explicabilité. Comment le prendre en compte? C'est à partir des exigences de l'IA Act en termes de ce qu'il faut expliquer et ce qu'il faudra démontrer. Je pense en particulier aux datasets et je pense en particulier aux résultats produits par les algorithmes. Conserver les itérations, vraisemblablement, et ensuite ne documenter que celles qui établissent les sujets de conformité. Mais comment l'intégrer? Vous n'avez pas d'autre choix en fait que de l'intégrer. Autrement dit, vous ne pouvez pas avoir l'excuse de la méthode agile pour dire ensuite je n'ai pas été capable d'expliquer. Mais pour avoir bien en tête le fonctionnement d'une méthode agile, méthode agile ne veut pas dire pas de documentation et pas d'explicabilité. Je dirais presque au contraire. Il y a beaucoup d'itérations dans la méthode agile et c'est vrai qu'il y a un versionning. Et au fur et à mesure, on avance, on abandonne telle hypothèse, on continue sur telle autre. Au fond, c'est cela qui va être documenté et conservé pour pouvoir être expliqué demain et pour pouvoir être ensuite figé dans une démonstration technique et au sein d'une documentation technique.
Une question concernant le rôle demain du DPO dans le cadre de l'application et de la conformité des entreprises face à l'AI Act.
Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent et à juste titre. Il faut se redire que l'AI Act, c'est une réglementation produit quand le RGPD, c'est une réglementation qui porte sur des opérations, en l'occurrence des traitements. Donc déjà, c'est deux réglementations distinctes. Ensuite, dans l'AI Act, il y a quelques incursions du RGPD, puisque des systèmes d'intelligence artificielle, par construction, pourraient opérer le traitement de données à caractère personnel, mais pas tous. Donc, autrement dit, il y a données personnelles dans des systèmes d'intelligence artificielle, mais pas toujours. Et donc, il y a mobilisation du DPO souvent, mais pas tout le temps, dans le déploiement de l'IA. En tout cas, le DPO n'a pas de rôle particulier qui est visé dans l'AI Act. Mais devra être impliqué dans la gouvernance pour ceux des systèmes d'intelligence artificielle qui embarquent des données à caractère personnel. Mais c'est pas, je le dis pas ni contre ni pour les DPO, mais cette question est souvent posée parce qu'il y a eu, je dirais, dans les premiers mois de la sortie de ce texte, un espèce de mouvement un peu automatique sur « Ah, ça sera les DPO qui prendront cette question ». Mais c'est un tout autre métier. Et c'est comme si, je vais vous donner cet exemple grossier pour que ça soit parlant, vous confiez la conformité de la fabrication d'un jouet à un DPO. Il y a des jouets parce qu'il y a des interactions avec des enfants qui pourraient éventuellement traiter des données à caractère personnel. On voit des jouets électroniques en particulier. Pour autant, la conformité, donc dans une entreprise fabricante de jouets, où il y aurait des inscriptions d'enfants avec des comptes, effectivement, le DPO serait mobilisé pour la conformité des datas traitées par le jouet.